On va continuer du coup là sur une autre lancée, le temps simplement de changer le plateau, et on va parler aussi d'enjeux politiques et économiques du jeu vidéo et du cinéma.
On va changer de sujet, mais enfin, quoique on parlait beaucoup de moyens lors de cette précédente conférence, et là aussi on va parler d'argent sonnant et trébuchant avec ce thème, quelle politique pour les jeux vidéo, l'exemple du cinéma. Alors quelle politique d'aide, c'est-à-dire quelle politique de soutien on peut apporter en plus de ce qui existe par rapport aux jeux vidéo, et peut-être emprunter une voie que le cinéma a déjà empruntée. Et on soulignera ces différentes aides avec les invités. Philippe Champy, bonjour.
Bonjour.
Inspecteur général des affaires culturelles, auteur d'un livre passionnant et très documenté, Jeux vidéo, l'industrie culturelle du 21e siècle, que je vous conseille. Et Levan Sargevelladze, bonjour. CEO de la société Celsius Online. Je vais vous demander de prendre les micros parce que je vais... Dans pas longtemps, je vais vous demander de parler, ça va être très dur. Président du SNJV, Syndicat National du Jeu Vidéo. Déjà, peut-être une petite... La place des femmes dans la représentation, j'allais dire, dans l'industrie, devant l'écran et derrière l'écran, est-ce que c'est une question qui vous touche au SNJV et qui vous interpelle ?
Oui, tout à fait. Je pense que ça fait partie des questions clés, à mon avis, pour l'avenir de l'industrie, d'ailleurs. Ce n'est pas juste une question parmi d'autres. Alors évidemment, c'est une question qui s'inscrit dans un cadre plus large aussi. C'est-à-dire que dans tous les métiers techniques de technologie, il y a ce débat-là. Et puis évidemment, il y a les évolutions sociétales qui sont ce qu'elles sont. Et notamment le fait qu'à l'heure actuelle, dans les écoles d'ingénieurs et d'ingénieuses, dans les écoles qui amènent à faire du développement de jeux vidéo, il y a encore beaucoup moins de femmes que d'hommes. Mais cela dit, ça se rééquilibre. C'est long, mais ça se rééquilibre. Mais enfin, très, très clairement, pour citer un chiffre, je ne crois pas qu'il ait été cité tout à l'heure, mais c'est un chiffre qui n'est pas bon. Le SNJV, donc on a fait, pour la première fois, il y a 2 ans, on a regardé, on a essayé de faire une étude précise sur le pourcentage de femmes dans l'industrie. Alors, je parle vraiment dans l'industrie de la création, c'est-à-dire vraiment dans la production, pas dans l'édition, dans la vente de jeux, ce qui aurait augmenté les chiffres, il faut être clair. Dans la production, on avait trouvé 14% de femmes dans l'industrie. Donc alors on peut évidemment être positif et se dire que du coup il y a une marge de progression formidable. Ouais. Mais voilà, enfin plus sérieusement, voilà, il y a effectivement, enfin c'est un enjeu effectivement tout à fait central.
Philippe Chantopi, vous travaillez actuellement sur les questions du cinéma. Vous avez, je le disais, vous êtes l'auteur d'un livre sur le jeu vidéo très documenté. C'est une question qui s'est posée, la question de la représentation de la femme qui traverse le ministère de la Culture, ça j'imagine, mais.
Traverse le ministère de la Culture, oui, c'est vraiment une des questions centrales. Il y a une équipe qui a été montée, il y a une volonté depuis 7-8 ans de toutes les ministres ou les ministres de rééquilibrer, notamment dans les questions de nomination, mais aussi dans les écoles. Et c'est vrai que, par exemple, beaucoup d'écoles d'art avaient plutôt des majorités féminines, pas les écoles d'archi, pas... Conservatoire, c'est assez équilibré. Donc on y fait attention de manière vraiment régulière. Et la question, c'est plutôt les dirigeants et les dirigeantes. Parce que avoir autant d'étudiantes ou d'étudiants, c'est pas très difficile, c'est démographique. Mais après, les plafonds de verre commencent à exister. Et avoir autant de dirigeantes que de dirigeants, ça devient beaucoup plus difficile. Et je pense que tout le monde peut imaginer les pressions qui sont faites pour que ça ne se rééquilibre pas.
Oui. Voilà. Très bien.
Donc autant d'efforts pour que ça se rééquilibre.
On change de sujet, mais ceci dit, pas tout à fait. Comment supporter, apporter son soutien à un secteur ? On parle de deux secteurs là ici.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ouais. Ça fait très aéroport à 70s, j'aime beaucoup. Ça fait tout de suite ça. c'est un côté Madeleine de Proust. Ah oui, d'accord. Donc, on apporte son soutien aux jeux vidéo et au cinéma. Bizarrement, les aides au cinéma, on les connaît un petit peu, ou en tout cas un petit peu mieux. Celles apportées aux jeux vidéo, finalement, un peu moins. On va peut-être faire un listing avec vous, Lévan. Qu'est-ce qu'il y a comme soutien apporté aux productions, à la production vidéoludique en France, pour justement supporter ce secteur économiquement, hein, j'entends.
Alors, donc économiquement, il y a à peu près, enfin il y a deux aides principales. La première aide, c'est, enfin qui à mon avis est la plus structurante pour le secteur, c'est un crédit d'impôt. Donc un petit peu là aussi comme le cinéma, en beaucoup plus petit, faut être clair. Donc le crédit d'impôt jeux vidéo, donc qui permet en fait d'aider, de financer certaines dépenses, donc à hauteur de 30% en l'occurrence, de certains jeux vidéo qui sont labellisés culturels. Alors ça, on pourrait y revenir, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on a ce critère d'éligibilité. Ça représente à peu près, à la louche, à peu près 25 millions d'euros par an, pour donner un petit peu l'ordre de grandeur. Et puis pour commencer à balancer des chiffres, parce que ça, je pense qu'il faut d'emblée,
il faut balancer quelques chiffres comme ça.
Et le second canal, ce sont toutes les aides qui sont des aides soumises à un jury, et qui entendent cofinancer des œuvres donc sur la base du choix d'un jury. Et le premier de ces jurys, c'est au sein du CNC, CNC et la DGE, la DGE qui dépend de Bercy, c'est la Direction Générale des Entreprises, c'est ce qu'on appelle le FAJV, le Fonds d'aide aux jeux vidéo, voilà, qui est doté d'à peu près 2 à 3 millions d'euros par an. Donc ça reste comme des sommes importantes, bon, sans aucune commune mesure avec évidemment ce qu'on a dans le cinéma. Et puis vous avez sur ce modèle-là également des fonds d'aide qui peuvent être régionaux. Par exemple, dans la région Hauts-de-France, il y a un fonds d'aide qui s'est créé sur le modèle du FHJV d'environ 1 million d'euros par an. Donc voilà, ça vient aussi s'ajouter.
Oui, et en Ile-de-France aussi, il est assez frais. Il y a un fonds régional qui s'est créé très récemment, il y a quelques mois, donc voilà, à bon entendeur. C'est un secteur qui, bizarrement, je prends le livre, le titre de votre livre, donc l'industrie culturelle du 21e siècle, et pourtant, on a créé des mécanismes d'aide. Est-ce que c'était un secteur qui avait besoin d'aide en France, ce secteur du jeu vidéo?
C'est un secteur qui a, à mon avis, une double particularité qu'on n'a pas tout à fait dans le cinéma. C'est un secteur qui est d'abord industriel. Si on prend l'histoire du jeu vidéo, c'est d'abord des technologies de consoles, des technologies purement numériques, des processeurs, et les jeux sont venus se greffer dessus plutôt comme des biens complémentaires. Et puis le succès qu'on a connu dans les années 70-80, ça a été assez lent, a fait que c'était un secteur qui est devenu culturel. C'est-à-dire on y a mis de la création, on a mis du graphisme, on a mis du game design, mais postérieurement. Donc c'était plutôt un produit d'appel pour des industries technologiques, et les industries technologiques, elles n'ont pas besoin d'aide. Ou plutôt, elles n'ont pas besoin d'aide internationalement. On ne va pas aider Microsoft, on n'a pas aidé Nintendo. Et donc dans le monde entier, on n'aide pas les industries technologiques comme on les aide comme dans les industries culturelles, et dans pas toutes d'ailleurs, mais quand on les aide, on prendra l'exemple français naturellement. Si on prend l'industrie du cinéma, on aide l'industrie du cinéma parce qu'il y a une économie d'échelle qui est très faible. C'est-à-dire, c'est 60 millions aujourd'hui de gens qui peuvent aller au cinéma. Aux États-Unis, c'est 300. En Chine, c'est 1,4 milliard. Donc, avec le même produit, on a des effets d'échelle quand on diffuse un film, etc., qui sont considérables, qui fait que la France ou les pays européens ont du mal à exister, ou eu du mal à exister sur les marchés cinématographiques.
Et c'est pour et ça certains que ont même certains pays ont même quasiment disparu. Quasiment des grands pays comme
l'Allemagne,
l'Italie
ont beaucoup souffert, l'Espagne. Donc il reste bien sûr des créateurs, mais du point de vue industriel, c'était très difficile. Et dès 45-46, au moment du GATT, donc de l'agrément international pour les échanges internationaux, il y a eu l'exception culturelle. C'est pas récent. C'est dès 44-46, il y a des débats pour dire on ne pourra pas lutter et l'univers culturel des nations n'existera pas. Donc l'exception culturelle, c'était ça. C'est-à-dire on va mettre on a le droit d'avoir des dispositifs quantitatifs pour protéger sur la diffusion, puis après sur les aides à la production, etc. Donc ça, c'est assez différent. C'est vrai pour le livre aussi. Il y a des aides pour le livre, mais à peu près pour les mêmes raisons, parce qu'il y a les mêmes économies d'échelle, mais c'est le monde francophone, c'est le monde hispanisant, etc. Et on n'a pas ça sur le jeu vidéo. Donc c'est assez tardivement que la question de la culturelle du jeu vidéo est arrivée en disant est-ce qu'on peut aider ce secteur où les technologies sont essentiellement américaines, japonaises, enfin internationales. C'est des technologies pour l'essentiel importées. On peut peut-être les aider sur la recherche, le développement. Donc ça, naturellement, c'est comme d'autres secteurs, le ferroviaire ou les métaux. Mais est-ce qu'on peut les aider culturellement ? Donc c'est venu, tu évoquais le fonds d'aide aux jeux vidéo. Moi, j'ai repris un peu l'historique. C'est venu assez tôt, c'est venu en 1989, le fonds d'aide aux jeux vidéo. Il procède du fonds d'aide à l'édition multimédia qui a été créé en 1989. Et je demandais à mon gamin tout à l'heure, parce que j'avais oublié, les jeux en 1989, il m'a pas répondu parce qu'on n'a pas vraiment trouvé au café. Ben il n'y en avait pas beaucoup, donc il a fallu aider à l'édition. C'est les éditions. Il y avait Montparnasse, il y avait le début d'Infogrames. Il y a très peu de jeux en fait. La France existait assez peu en 89. Donc c'était les petites sommes évoquées, hein, c'est en dessous du million, mais c'était pour aider à l'édition multimédia. Donc voilà l'origine, je crois, de l'intérêt de l'État. Assez ancien, 89. Pour donner un dernier exemple historique, j'ai fait un article il y a quelques mois ou un an sur les politiques multimédia ou numériques en France, culturelles. Le premier conseiller numérique au ministère de la Culture, c'était Jacques Lang qui l'avait trouvé. C'était un monsieur Populus, qui était un curé par ailleurs ou un moine. Et,
il super, a un nom de jeu vidéo par contre. Populus, ça claque bien, je trouve.
Et qui existe toujours, hein, pas mort, et qui a aidé au développement du multimédia. Puis en 84-85, il a été repris. Il a été suivi par Alain Le Diberder, avec qui j'ai écrit un bouquin sur les industries culturelles. Donc c'est assez ancien. Et c'était plutôt le spécialiste des jeux vidéo, Alain. Et dernière anecdote, négative cette fois. Quand j'étais au cabinet de ministre qui était Catherine Tasca, c'était en 2000, il y avait une grosse crise des jeux vidéo, on y reviendra peut-être. Ah, et oui. On avait, avec un collègue, écrit une note en disant « faut aider les jeux vidéo, faut demander à l'IFSIC, l'Institut de financement des industries culturelles, faut que le CNC mette plus dans le fonds d'aide aux jeux vidéo, parce que le jeu vidéo est culturel ». Et en face de la note, il y avait écrit la réponse, c'était au feutre rouge, en gros, « non, les jeux vidéo ne sont pas culturels ». Donc ça a été très long quand même à faire.
C'est intéressant. C'est vrai, oui. Que cet aspect structurel est vraiment très, 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 très intéressant. Après, c'est vrai que de façon plus prosaïque, c'est vrai que dans les années 80-90, le jeu vidéo donc français a commencé à décoller.
Ah, oui, oui.
Et notamment dans les années 90, on parlait de la French Touch. Et alors, là, je vois que des jeunes visages. Donc, je ne sais pas exactement si tout le monde connaît Another World, LBA. Oui, parce que donc, il y avait Infogrames, il y avait Ubisoft qui montait également en puissance, il y avait Cryo, il y avait Delphine Software, Callisto aussi. Enfin, il y avait plein de boîtes très intéressantes. Aussi bien, parfois d'un point de vue strictement culturel, parfois d'un point de vue aussi strictement financier. Enfin, et puis parfois, ils arrivaient à faire les deux. Donc, c'était vraiment une alchimie assez incroyable. Bon, moi, j'étais gamin, donc je connaissais pas vraiment le côté business du truc. Mais à la fin des années 90, c'est vrai que tout ça a volé en éclats. Et ça a été assez violent. Alors, ça a volé en éclat pour plein de raisons. Il n'y a pas une cause seule. C'est vrai qu'il y a eu l'éclatement de la bulle Internet. Ça a fait énormément de dégâts. On peut aussi peut-être un peu faire l'autocritique aussi et dire que de façon endogène, il y avait peut-être aussi quelques... Enfin voilà, il y avait des très grands créateurs de jeux, mais qui n'étaient pas forcément des très très bons créateurs d'entreprises. Enfin, ça pouvait arriver. Bon, cela dit, on a quand même un grand géant, notamment Ubisoft, qui en est surgi. Donc, on n'a pas à avoir honte de cette période, loin de là. Enfin, je parle en tant que français. Mais donc voilà, donc ça a été extrêmement difficile. Et puis il y a eu aussi un autre facteur important, et ça il ne faut pas être naïf là-dessus, ça a été le dumping fiscal, social extrêmement agressif de certains pays. Alors il y a eu certains, on était en concurrence avec par exemple Singapour et d'autres choses, mais surtout le pays clé, là c'est le Québec, enfin, le Canada et le Québec en particulier. Et ça a été extrêmement violent, c'est-à-dire que ils ont mis en place un crédit d'impôt. À l'époque, je ne sais plus comment il était, mais ça devait être 35%, 40%. Voilà, vous venez faire votre jeu au Québec, vous aurez des subventions, vous aurez 35% de moins de tout. Sachant que déjà, les impôts étaient plus faibles qu'en France. On était à une période où on était un peu au-dessus en termes de fiscalité, etc. Ce qui fait que ça a vraiment laminé l'industrie française du jeu vidéo, qui était à peine naissante. Je crois que il y avait, au milieu des années 2000, il devait plus y avoir que 2500 personnes, 2500 personnes
à Paris. On était parti autour de 10 000, c'est ça, avant, quelque chose comme ça.
Nous partîmes 10 000 en arrivant à l'aéroport, c'était vraiment très inquiétant. On avait des studios tous les ans qui fermaient. Et puis donc, et donc il y a eu cette demande aussi auprès des pouvoirs publics de dire, bah voilà, il faut faire quelque chose. Et ce qu'il faut faire, c'est pas plus de subventions, c'est pas faire des chèques, parce que ça, à mon avis, c'est pour une industrie, c'est pas une bonne idée. Enfin, une industrie, ça vit pas de subventions. Non, ce qu'il fallait juste, c'est qu'on ait un peu moins de boulets au pied par rapport, par exemple, au Canada. D'ailleurs, c'est important de considérer que à ce moment-là, les entreprises se sont pas dit, enfin, les chefs d'entreprise en France se sont pas dit, bah, je vais fermer ma boîte en France et je vais aller au Canada. Ça s'est pas fait comme ça. C'est que les entreprises simplement ont fermé en France. Mais ça, il y a des entreprises qui ferment tous les ans, c'est normal. Il faut juste qu'il y ait un solde positif et qu'il y ait des entreprises qui se créent. Mais il n'y avait plus d'entreprises qui se créaient en France. Et au Canada, Canada, il y a eu une industrie qui s'est développée de façon absolument incroyable et qui aujourd'hui est devant la France, très clairement, qui est l'un des premiers pays au monde. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce crédit d'impôt jeux vidéo, on l'a beaucoup attendu. Et donc le SNJV a vraiment porté, c'est vraiment le projet du SNJV d'essayer de convaincre les pouvoirs publics là-dessus. Donc alors, et finalement, ça s'est fait. En 2008, c'est ça, voilà. Donc on a essuyé pas mal de pots cassés.
Et alors, ouais, vous partir 2000, mais aujourd'hui, vous êtes un peu plus nombreux.
Alors, aujourd'hui, si on compte la prod seule, alors, on a des chiffres qui vont sortir, mais pour être tout à fait franc, je ne les ai pas encore lus, ces chiffres. Donc, je pouvais vous donner que les chiffres de l'année dernière. On était un peu, enfin, en prod pure. Normalement, là, je ne compte pas tous les emplois induits, toutes les éditions, etc. On était l'année dernière entre 5000 et 6000 emplois. Donc, ce qui n'est quand même pas beaucoup hein, quand on compare, je sais pas, à l'automobile, à plein d'autres choses, mais en croissance de 20% par an, globalement. Donc là, on s'attend à être 6000 à 7000. Donc, c'est une croissance importante. Voilà. Mais alors, si on compare par exemple au Québec, si vous vous promenez à Montréal, par exemple, à Montréal seul, il doit y avoir à peu près 10 000 emplois dans le jeu vidéo.
Juste sur la ville.
Et quand vous baladez, enfin dans les studios, vous entendez beaucoup parler français, forcément, souvent avec cet accent charmant de nos voisins outre-Atlantique, mais parfois aussi avec un accent parfaitement parisien, voire un accent du Sud et autres. Et ça fait un peu mal au cœur, effectivement, parce que beaucoup de diplômés se sont dit, ben voilà, il n'y a pas d'emploi pour moi en France, je vais au Canada. Avec souvent l'idée de revenir plus tard, mais enfin, quand vous êtes jeune, vous allez au Canada. Voilà, parfois vous y restez, hélas pour nous.
C'est étrange, on arrive au même résultat, c'est-à-dire un soutien à un secteur pas en passe de disparaître, mais enfin en grande souffrance. Et donc du coup, les politiques, on va dire, d'aide et les mécanismes d'aide se mettent en place beaucoup plus, de manière beaucoup plus forte. D'ailleurs, je crois que le jeu vidéo était encore, il y a quelques années, dépendant de Bercy, dépendant du ministère de l'économie. Et j'étais souvent invité au ministère de l'économie pour des histoires de jeux vidéo, et ce qui était très étrange de se dire, alors que pour moi en tant que joueur, c'était quelque chose qui appartenait à la culture. Alors, et ce que vous avez expliqué était très juste sur l'idée de logiciel.
Je pense qu'il y a vraiment les deux, c'est-à-dire c'est un secteur qui est parti. C'est pour ça qu'on avait plutôt écrit que c'était l'industrie du 21e siècle. C'est très industriel, presque. Le cinéma l'est déjà énormément. On l'oublie un peu, mais il y a énormément de technologies, il y a énormément d'investissements en R&D, pas toujours par les studios, c'est souvent en sous-traitance. Le jeu vidéo, c'est évidemment technologique, mais plutôt pour les modes d'accès, plutôt pour tous les systèmes de processeurs, etc. Et puis les logiciels, bien sûr, mais les logiciels de développement. Mais la part créative existe en même temps. Et donc, c'est sous co-tutelle quasiment. Ça a été plutôt au début le ministère de la Culture, parce qu'on appelait ça multimédia. On ne savait pas trop, c'était des CD-ROM, il n'y avait pas vraiment Internet, enfin, pas le web. Donc, il y avait des créations qui étaient hybrides et qui progressivement se sont développées dans le web, principalement, et puis dans le jeu. Mais le jeu, ce n'est pas nécessairement culturel. Le jeu, c'est culturel au sens anthropologique. On joue, faut voir Norbert Elias et d'autres, on joue comme on fait la cuisine, etc. C'est des activités humaines, fondamentales, mais dont le caractère culturel n'est pas très évident. On joue aux cartes, est-ce que c'est culturel de jouer aux cartes? Donc pour le ministère de la Culture, ce n'était pas très évident, qui est plutôt un ministère
je comprends
qui
bien
joue
le dilemme,
le caractère artistique, les beaux-arts, etc., de dire... Et je comprends et éventuellement la ministre qui disait non, c'est pas culturel, parce que c'est une autre vision de la culture. Qui le ministère de la Culture dit ben non, c'est pas artistique. Sauf que, je rebondis sur ce qui vient d'être évoqué, sauf que qui crée des jeux, principalement des créateurs. Et les créateurs, ils sortent d'écoles d'art, ils sortent d'écoles de développement maintenant. Donc c'est plutôt des artistes. Il y a une étude, je ne sais pas si ça a été refait depuis, qui regardait qui créait de la valeur ajoutée dans la production de jeux. Et donc, il y a 10 ans, mais ça, je ne pense pas que ça ait beaucoup évolué, sauf que c'est difficile de déterminer en métier, c'était 50% de la valeur ajoutée était créée, produite par des créateurs. C'est des gens qui faisaient du design, de la musique, du game design, donc du scénario, etc. Enfin, avec toutes les spécificités du secteur. Puis les autres, c'est pas négatif, plutôt du développement. Mais est-ce que les développeurs sont pas aussi des créateurs? Ils le sont aussi. Donc les frontières sont floues. Et d'emblée, ça a été pris en fait par les deux ministères. Le ministère de l'Industrie, parce qu'il y a des enjeux industriels, y compris de souveraineté sur un certain nombre de technologies, parce que ça irrigue les autres secteurs, parce que ça prend aussi des secteurs de l'informatique, des télécommunications. Ça va avoir des effets induits sur le développement des télécommunications fixes, mobiles, etc. Donc le ministère de l'Industrie s'est évidemment intéressé à un secteur en forte croissance et ultra compétitif. Le ministère de la Culture à travers le CNC, parce que c'est là où il y a l'industrie la plus lourde, s'en est saisi assez vite aussi, on a dit les dates, dans les années 80. Alors la structuration, elle est quand même très lente du secteur. Et puis tu l'as dit, c'est un secteur qui est tout petit. En nombre d'emplois, en nombre d'entreprises, il y a une très forte volatilité des entreprises. On cite Ubisoft tout le temps, mais la plupart des entreprises ont très peu de salariés. Elles disparaissent, les équipes se recomposent, recréent des entreprises. Les éléments, ils vont travailler pour des consoles d'abord, puis du téléphone mobile, etc. Donc cette volatilité du secteur le rend aussi difficilement appréhensible par des outils, des politiques publiques. Et puis, dernier point, qui faisait que les deux secteurs, les deux ministères s'en sont emparés, à mon avis, plutôt tôt, si on compare à d'autres secteurs, peut-être pas toujours très bien, mais plutôt tôt, c'est qu'assez vite, ce qui se joue, en fait, c'est plutôt une guerre des talents, ce qui vient d'être évoqué à Montréal. Et que la France, plutôt par des écoles privées, produit, d'une certaine manière, de forts talents créatifs en termes de design, en termes d'image, en termes de son, etc. C'est assez proche
la structure pédagogique voilà. est là.
C'est assez
elle
proche
est très...
du secteur de l'animation. Mmh. On est plutôt très fort dans le secteur de l'animation. Et donc, ce qui était un peu regrettable, si on raisonne purement comptablement, c'est que, je vais faire le financier, vous financez des jeunes à faire des études, même si après elles sont dans des écoles privées, mais au moins jusque-là, avec des infrastructures, etc. Et puis ils partent à l'étranger. Et ce sont eux les créateurs de valeur. Et ils peuvent partir à Montréal, à Singapour, à Vancouver, en Louisiane, chaque fois qu'on va les attirer. Donc il y a une guerre des talents. Et ce qui n'a pas été évoqué sur Montréal, c'est que, bien sûr, il y a une guerre de crédit d'impôt, parce que c'est le moyen le plus simple, on pourra l'expliquer peut-être tout à l'heure, pour soutenir le secteur. Mais à Montréal, ils ont un autre avantage, c'est que non seulement le crédit d'impôt était élevé et reste compétitif, mais qu'une fois que vous êtes là-bas, vous n'avez quasiment pas d'impôt sur le revenu. Donc l'entreprise gagne et le créateur qui va là-bas ne paye pas d'impôt. Donc il a piscine, maison, etc.
Il fait froid l'hiver quand même.
Heureusement, la piscine.
Oui, il fait froid l'hiver quand même. Je veux pas...
Heureusement pour nous d'ailleurs, qu'ils n'ont pas un bon climat.
Je ne veux pas dénigrer le Québec. Enfin, il fait un peu frais quand même. Hein. Le 31 décembre au soir, il faut un peu beaucoup chauffer. La question se porte sur quelles politiques pour les jeux vidéo par rapport au cinéma. Il y a un mécanisme d'aide qui est assez connu au cinéma qui s'appelle l'avance sur recette, parce qu'on comprend bien le sous-entendu de l'affaire de ce questionnement. L'avance sur recette, en gros, si je l'explique, c'est qu'il y a une petite part sur chaque billet, mais film américain ou pas film américain, tous les billets, il y a une petite part qui part à ce que j'appellerais un fonds, et qui est après redirigé vers la production et le soutien du cinéma français, ce qui a beaucoup aidé, en tout cas une partie de ce cinéma-là, pas tout le cinéma, mais une partie de ce cinéma-là. Levan, est-ce que c'est l'avance sur recette? Toujours décrié au cinéma, ça reste toujours une question un peu polémique. Est-ce que ce serait une bonne idée de l'intégrer dans le monde du jeu vidéo, dans le secteur du jeu vidéo?
Alors bon, après il faut voir exactement de quoi on parle. Il y a différentes modalités d'avance sur recette. Moi je suis plutôt réservé sur ce genre d'idée pour deux raisons. Bah, d'une part parce que moi je pense pas aujourd'hui que le jeu vidéo ait besoin de plus de dispositifs. Tout simplement, enfin, voilà, enfin, après, on n'est jamais contre, hein, mais je veux dire, si on veut pas être démagogique, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, ce qui marche bien, qu'on arrive à le pérenniser. C'est davantage de ça qu'on a besoin, à savoir le crédit d'impôt jeux vidéo, donc c'est la pierre angulaire de soutien de l'État aux jeux vidéo. Et pourtant, on a l'impression que tous les ans ou tous les deux ans, il peut être remis en cause. Et ça, c'est embêtant parce que même le simple fait de savoir que ça peut être mis en cause, enfin que ça peut être mis en cause, quand vous êtes donc vous avez un studio, vous faites un jeu, même pour un montant qui est pas forcément énorme, si, mais qui va durer 2-3 ans. C'est vraiment ça le. Enfin, c'est vraiment ça le genre d'horizon. Et puis en plus, vous allez faire un jeu qui va durer 2-3 ans, mais vous créez un studio et pas juste un jeu. Et les gens que vous embauchez, vous les embauchez en CDI. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc il faut avoir après l'idée de se dire, voilà, ben, dans 6-7 ans, je continuerai à être là, on continuera à faire d'autres jeux, etc. Et pour ça, il faut qu'on ait quelque chose qui soit pérenne. Et alors déjà, plus on a de dispositifs, moins c'est pérenne. Si on commence à demander beaucoup, on va peut-être avoir beaucoup, mais après, on va peut-être qu'une année sur deux, ça montera et puis ça augmentera. Et puis surtout, il faut bien voir, là, je vais être un petit peu polémique peut-être, j'espère qu'il n'y a pas de gens qui travaillent trop dans le cinéma ici, mais je n'ai pas l'impression, qu'il y a une grande différence entre l'industrie du jeu vidéo et l'industrie du cinéma, sur un point particulier, c'est que l'industrie du cinéma est certes beaucoup plus aidée, pour plein de raisons, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, d'ailleurs, ça c'est... Enfin, il ne faut pas faire un parallèle entre les deux. C'est une industrie qui emploie beaucoup plus de gens, par exemple le cinéma, donc il y a beaucoup plus d'emplois à défendre aussi. Mais si d'aventure, il y avait le même traitement qui est un petit peu de douche écossaise qui était réservé au cinéma, c'est-à-dire que si vraiment le monde du cinéma avait l'impression tous les ans que peut-être qu'ils n'auront plus aucune aide l'année prochaine, eh bien vous avez des personnalités publiques très influentes.
Catherine Deneuve qui fera une tribune quasiment.
Mais que ce soit Catherine Deneuve, Pierre Arditi, n'importe quoi, enfin des gens très respectables.
Non, je ne sais pas, c'est en plus.
Mais les politiques ne veulent pas se mettre à dos. Voilà. Alors que dans le jeu vidéo, on s'en fiche pas mal de nous, globalement. C'est-à-dire que si, effectivement, personne ne sait, personne ne connaît les noms des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, c'est-à-dire dommage. À mon avis, on parle vraiment de talent. Il y a des talents qui devraient être reconnus par le grand public, à mon avis. On pourra en reparler. Mais globalement, voilà, je pense qu'on ne peut pas vouloir avoir le même traitement que dans le cinéma pour plein de raisons structurelles. Et que donc, voilà, l'aventure recette, c'est quand même une grosse usine à gaz. C'est parfois d'ailleurs décrié effectivement dans le cinéma.
Toujours, oui.
Bon,
ça fait toujours débat. Mais
Fait débat. Bon, après, voilà. Après, on peut utiliser les différents dispositifs. Mais en tout cas, si ça permet de se dire, voilà, tout en consolidant l'industrie en termes de finances, ça permet d'être plus innovant en termes culturels, plus audacieux, parce que le jeu vidéo, c'est pas que des chiffres et des chiffres d'affaires. Si ça permet d'avoir des œuvres plus audacieuses, ça, à mon avis, c'est bien pour tout le monde.
Philippe Chantepie, cette avance sur recette, pardon.
C'est pas exactement l'avance sur recette. Alors je vais redistinguer les aides du CNC. Parce que, en fait, il y a des aides sélectives. On vient d'en évoquer une pour les jeux vidéo. C'est le fonds d'aide à l'édition multimédia, devenu fonds d'aide aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a une commission qui va distribuer sur un certain nombre de projets, autour de 30-40 par an, des aides qui sont comme de l'amorçage, qui vont aider en fonction de la qualité des jeux, du caractère culturel, de l'inventivité, du game design, etc. Et c'est des commissions de professionnels qui vont attribuer finalement assez peu par jeu, puisque c'est 3-4 millions divisé par 40 projets. Donc c'est pas des sommes considérables, mais ça permet de lancer un jeu, éventuellement de prendre plus de risques sur un jeu qu'un autre où on pense qu'on va plutôt réussir en termes commercial sans trop de...
Sans trop
d'innovation. Oui. Quoi. Donc l'avance sur recette, c'est ça, historiquement. Ce que vous évoquiez, c'est plutôt ce qu'on appelle la taxe spéciale additionnelle, la TSA, et qui était plutôt un système, un système inventé pour financer le cinéma à partir du succès du cinéma américain. C'est-à-dire, plus vous allez voir des films américains, comme la taxe, j'ai oublié le taux, mais ça doit être 2, 3, 5, 7%, peu importe, sur chaque billet, ça va au CNC et ça va financer des films français.
Ce qui est quand même une géniale invention faire financer par les Américains.
Ça s'appelle un tuyau bien placé.
Oui, oui, oui.
Donc,
oui,
plus le cinéma américain marche, plus on finance du cinéma français. Ce qui fait que parfois, quand on va trop au cinéma américain,
on finance trop le cinéma français.
Et après, on y va. Les films ne réussissent pas ou ne connaissent pas leur public. Donc, il y a un équilibre comme ça dans le long terme. Ça, mais c'est une toute petite partie. C'est 7% du financement. Et c'est du financement qui n'est pas de l'État. C'est les consommateurs qui alimentent cette chaîne-là. L'État, il fait juste la caisse, quoi. Il prend et puis il reverse. Là où le cinéma est financé, c'est pas ça. C'est sur essentiellement les chaînes de télévision. C'est le pourcentage du chiffre d'affaires de Canal, énormément.
La fameuse chronologie des médias.
Le financement de France 2, de France 3, de TF1, etc. Et des télécoms. Donc l'essentiel, c'est dire celui qui distribue à la fin, c'est l'exploitant pour le cinéma en salle, mais c'est les chaînes de télé qui passent du cinéma pour l'essentiel, c'est câblé, pas câblé, etc., qui refinance la production. Et donc, on a cette boucle. Alors, on s'est interrogé il y a longtemps sur, par exemple, la question de la copie privée. Quand vous achetez, vous savez qu'on paye de la copie privée, quand on achète des CD vierges, des disques durs, des téléphones mobiles, etc. Il y a une partie de la mémoire qui est affectée aux producteurs de musique, aux producteurs d'audiovisuel, etc. Et on s'était posé la question de le faire pour les jeux vidéo. Ça a été demandé à un moment par, d'ailleurs, la FJV ou le SNJV il y a 10 ans, en disant pourquoi on ne toucherait pas cette manne. Puis finalement, ils ont reculé, parce que, évidemment, c'est un mode d'accès. Il y a de la mémoire, j'enregistre un jeu, etc. Mais comment est-ce qu'on redistribue? Et puis, à qui est cette mémoire? En fait, c'est la console, pour l'essentiel. Et donc, et Microsoft, et Nintendo et les autres ont dit, mais il est hors de question qu'on finance la production parce que vous achetez des disques durs. Donc, c'est plutôt ça la question de ce que vous évoquez sur l'avance sur recette, c'est-à-dire qui va payer? Par exemple, le secteur du spectacle, il dit, on aimerait bien un système pareil. Mais quelle est l'assiette? C'est le fauteuil? C'est le velours du fauteuil? Ça n'a pas de sens. Donc c'est très difficile, en dehors du cinéma, d'avoir un système qui remonte de l'argent.
D'accord.
Sauf si, c'est sympa de la part des Américains ou des autres, sauf s'il est extérieur. Sinon, on finance deux fois. Donc c'est très difficile de dupliquer le modèle aux jeux vidéo.
Finalement, le modèle des mécanismes d'aide du cinéma est très difficile à dupliquer dans le jeu vidéo.
Oui, il est difficile à dupliquer. Effectivement, techniquement, c'est très compliqué. D'ailleurs, l'arrivée de nouveaux médias type Netflix, etc. Le système du CNC fait que quand Canal+ perd les droits de diffusion de la Ligue 1, le cinéma tousse. C'est-à-dire qu'on s'est dit, quel rapport quoi. C'est vraiment une usine à gaz. On n'a rien de tel dans le jeu vidéo. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les consoliers et les plateformes ont un rôle qui est beaucoup plus important, enfin, qui est très différent structurellement de celui que... Alors, on pourrait essayer de taxer les plateformes et autres, mais enfin, je n'entre pas dans ce débat-là, qui est un débat qui dépasse très largement, évidemment, le jeu vidéo, bien sûr. Alors, on peut aussi souligner quand même, c'est vrai que le jeu vidéo a une autre grande différence avec le cinéma français. Le cinéma en tant que tel, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche beaucoup par zone linguistique. Le cinéma français, c'est évidemment pas la même chose en France et en Allemagne, forcément. Le jeu vidéo, en revanche, quand vous faites un jeu vidéo, vous êtes un studio indépendant, comme le mien, vous faites du jeu vidéo, globalement, le public, même si vous êtes français, le public français, ça ne va pas représenter beaucoup plus que, à tout casser, 10%. Donc, votre but, c'est pas d'être entre guillemets protectionniste sur le territoire français, d'avoir
le public francophone ne suffit pas.
Le public francophone ne suffit absolument pas. Et puis même s'il suffisait. Même les Américains ne se disent même pas eux-mêmes qu'ils ont un marché domestique qui est leur but. Tout le marché mondial est vrai, ou au moins occidental pour certains types de jeux. Après, l'Occident, la Chine, c'est que c'est différent en termes de culture et autres. Mais si on commençait à protéger le marché français en risquant du coup évidemment d'avoir des barrières à l'entrée sur les autres marchés, je pense qu'on serait perdant à la fin.
Alors je sais qu'on en avait discuté, le soft power, ça, tu y crois assez moyennement. Donc le soft power qui est une espèce de pouvoir par la culture qui a été mis en avant par le cinéma, c'est-à-dire aider le cinéma français, mais aussi l'aider à s'exporter pour pouvoir dire, regardez ce qu'est la francophonie dans d'autres pays que ceux de la francophonie. Et dire, voilà, c'est ça le soft power, c'est une manière de Hollywood, par exemple, déverse ses films sur toute la planète et nous apprend à manger des burgers très tôt, très vite, etc. etc. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une idée là derrière, du côté des jeux vidéo, à revendiquer une francophonie, ou etc. Ou alors, est-ce que ce n'est pas du tout viable économiquement?
Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a le soft power, il y a la francophonie. C'est des choses, effectivement, ça peut être lié. Alors, c'est comme je l'ai dit, c'est vrai que la francophonie dans un jeu vidéo est moins importante que la francophonie dans un film. Et ça, c'est vrai qu'on ne pourra pas le changer, à mon avis. Même si, il y a une façon française de faire des jeux. Moi, je disais, dans les années 90, il y avait la French Touch. Et c'était pas un slogan. D'ailleurs, c'était pas un slogan qui était spécialement utilisé dans le marketing. C'était vraiment quelque chose de réel, de concret. Il y a une école, il y a des écoles de pensée quelque part. Le soft power, moi, je me méfie toujours un petit peu. Déjà, je me méfie des mots anglais toujours. Quand on traduit pas un mot, c'est qu'on veut que le sens reste un peu flou. Après le soft power, moi, je vois ce que c'est quand on me parle du cinéma hollywoodien dans les années 50. Ça, je vois effectivement. Il y a quelque chose de très concret. Ou dans les années 40. je vois aussi ce que c'est quand on parle du roman anglais à la fin du 19e siècle. Il y a vraiment quelque chose qui est transmis là. Il y a un élément de puissance. Ce serait trop long de développer. Et puis surtout, ça n'a aucun rapport avec notre sujet. Mais
on est pas si loin,
le soft power, c'est une vision du monde. Enfin, c'est donner à voir une vision du monde, mais quelque chose qui doit être profond. C'est pas juste expliquer comment manger des hamburgers, parce que ça s'appelle de la publicité. Ça touche à quelque chose, à un fondement même métaphysique de notre rapport au monde. Je veux dire que je pense que David Lynch, moi je vois quelque chose d'un rapport au monde qui se constitue quand je vois un certain cinéma américain. Je ne sais pas David Lynch, mais j'aurais pu en dire d'autres. Aujourd'hui, est-ce que le jeu vidéo est à même de créer cette vision du monde? Moi je le pense, mais c'est embryonnaire. Je pense que le 21e siècle sera, à mon avis, ce sera un siècle qui sera au jeu vidéo ce que le 20e a été au cinéma. C'est quelque chose qui va vraiment. L'histoire du 21e siècle se fera en jeu vidéo. L'histoire du 20e, pour parler comme Jean-Luc Godard, c'est. Enfin bon, je ne vais pas parler comme Jean-Luc Godard en fait.
Non, non.
Je vais arrêter là. Mais non, mais voilà, il y aura vraiment quelque chose. Ouais, le jeu vidéo de demain, ce sera probablement pas des gens devant un canapé qui joueront devant leur console ou sur leur téléphone. Il y aura probablement, on mettra des nouveaux dispositifs qu'on n'imagine même pas. Et on sera transporté dans un monde où, je sais pas moi, on sera Napoléon sur la S1 à Waterloo qui regarde vers l'est si Blücher arrive. Enfin, on sera vraiment, on nous montrera quelque chose et on aura surtout des choix moraux véritablement à faire. Des choix moraux qu'on commence déjà à voir dans certains jeux. Il y a des jeux qui apportent une vision morale du jeu. Tout à l'heure, quand on parlait de la question de la place des femmes dans le jeu vidéo, voilà, c'est pour ça que c'est important aussi parce qu'il y a des choix moraux. C'est pas juste mettre plus de femmes ou plus d'hommes, etc. Il y aura incarner une femme dans un jeu, je pense que, enfin, dans un jeu qui est intéressant, il y a des jeux pour lesquels on peut jouer un homme, une femme, ça n'a aucune différence. Je veux dire, Lara Croft, ça pourrait être un homme, je m'en fiche complètement. Enfin, c'est l'avis personnel.
Tu brises le cœur de nombreux.
Oui, ça m'intéresse pas du tout.
Nombreux passionnés.
Ou alors Duke Nukem, ça pourrait être une femme, ça changerait rien. Mais quand vraiment on aura des jeux et de plus en plus on en a, où il y aura vraiment des choix moraux, un impact concret. Excusez-moi, l'avion va décoller. Enfin voilà, donc, enfin oui pour plus tard, mais pas maintenant, à mon avis.
Je vais laisser la dame. Si le départ c'est à 17h45, moi je veux pas. Le soft power me paraît intéressant. Qu'est-ce qu'on soutient alors? Est-ce qu'on soutient des talents pour qu'ils restent ici? On est producteur de talents et les fait venir ici et c'est une manière de supporter un secteur. Ou est-ce qu'on peut aider un soft power, un secteur à forte valeur ajoutée en culture, culturellement parlant?
Le soft power, c'est quand même un outil d'influence diplomatique. Donc, il peut y en avoir pas mal. Donc là, c'est du soft power au sens, je prends des expressions culturelles qui peuvent être de la littérature, du cinéma, donc avec une industrie derrière, parce qu'il y a un intérêt économique pour le pays à défendre qui Hollywood, qui l'édition, etc. Et à produire un univers qui à la fois favorise l'identité de tel ou tel pays pour des exportations, notamment de biens ou de services, ou d'influence diplomatique, je sais pas, de la France en Afrique, ou en Amérique latine, etc. Mais avec une gamme assez vaste, c'est-à-dire je vais avoir à exporter où je suis identifié parce que j'ai des intellectuels, j'ai une littérature, j'ai une manière de voir le monde, je partage ce qui vient d'être dit de ce point de vue-là, et sur, mettons, la France, l'universalité, un certain nombre de valeurs, etc. Est-ce que le jeu vidéo porte ces valeurs? C'est pas très évident, parce que ce que font les autres arts, les autres formes de création, il n'y a pas de hiérarchie à mes yeux, hein. Mais la plupart, c'est quand même des logiques de fiction. Et de fiction avec quand même des formes, que ce soit le roman, que ce soit un essai. Mettons Piketty qui vient de sortir un livre et qui en a vendu 2 millions ou je ne sais pas combien pour le précédent. Mais c'est pas un roman, mais c'est une pensée. Un film, c'est aussi se dérouler. Le jeu vidéo, par sa structure même, ne produit pas. Il produit un univers, crée un univers, qu'on peut trouver parfois dans un certain nombre de films, mais il ne produit pas, me semble-t-il, je parle très personnellement, de pensée, au sens de dérouler. C'est-à-dire, donc, alors, sauf à dire, je fais un jeu dans un pays et qui va représenter le pays à l'extérieur. Comment il s'appelle le jeu d'Ubisoft? Là, j'oublie les noms.
Assassin's Creed,
Assassin's Creed. Ben Assassin's Creed, ben, sauf qu'il y a aux États-Unis, il y a à Venise, il y a machin. Donc une fois que j'ai fait la Révolution française, j'ai fait que la Révolution française, où je pourrais faire Napoléon, mais c'est mal vu parce que c'est l'homme le plus détesté du monde après Hitler. Donc je ne vais pas le faire. Donc je ne vais rien vendre en fait derrière en termes d'influence. Donc c'est assez difficile pour ce secteur-là de porter quelque chose au-delà de l'expression artistique qui est réelle, que je ne mets absolument pas en cause, et des talents créatifs qui existent en France, mais qui, on vient de le voir, peuvent exister ailleurs. Et s'ils vont faire, s'ils vont travailler dans une boîte américaine, ils vont porter la même chose. Donc, et quand, comme en plus on est dans des métiers créatifs qui, hormis, qui sont pas sur la logique de récit que je viens d'évoquer avec le cinéma, le livre, etc. C'est la création d'univers plus que de récits. Et qui sont souvent autour de l'image ou du son, et c'est beaucoup plus interchangeable et donc c'est moins nationalisé, enfin, ou identitaire. Alors on avait essayé dans le bouquin de regarder un peu la production de jeux vidéo, j'ai le plus vite, est-ce qu'il y a des vraies distinctions nationales, etc. On n'est pas archi spécialiste, on n'a pas regardé le monde entier, mais en Afrique, c'est quand même assez différent. En Amérique latine, un peu. En Asie, c'est aussi, y compris dans le dessin, un monde qui est assez différent. Donc il y a des choses qui passent, mais en fait, on est quand même avec des choses assez fermées. Mais alors dire, c'est un jeu allemand, c'est un jeu italien, c'est un jeu français, je ne crois pas. Donc,
c'est par continent alors peut-être ? Bah, est-ce que ce qui transpire plus, c'est le
jeu finalement chinois, continent. Les jeux du sud-est asiatique, mm-hmm. ça peut circuler.
Ou par région, j'allais dire.
Par région, mais comme le cinéma, je travaille plutôt sur le cinéma. Mm-hmm. Il y a un bassin régional asiatique d'exportation et d'importation, de choses qu'on ne voit pas du tout en Europe, sauf quelques productions chinoises ou japonaises. Donc c'est un bassin qui est plus que linguistique et qui existe. Il y en a un peu en Amérique latine, il y en a en Afrique. Après, il y a des systèmes industriels qui sont différents. Et donc, on n'a pas cette universalité où on pourrait dire que c'est un jeu français. Ça ne veut pas dire que les Français ne jouent pas un rôle, mais du coup, ils ne sont pas porteurs, à mon avis, d'une logique de soft power, et je ne crois pas que les pouvoirs publics, en dehors de dire il y a une French touch, à la limite, je les représente là. Si on me demande ce que c'est, ben, la réponse, je viens vous de la donner, j'en sais rien.
Evan, tu partages le...
Alors, non, mais je... Enfin, il y a peut-être... Moi, juste peut-être un petit bémol, parce que même si, effectivement, pour moi... Enfin, parler de soft power, c'est parfois un petit peu compliqué. Ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Parce que, en fait, et tout à l'heure également, tu parlais de l'aspect culturel ou non des jeux vidéo. Moi, je pense que le mot-clé qui fait qu'on a du mal à définir effectivement ça, est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est pas culturel, pour moi, c'est assez clair et assez naturel, c'est de la culture populaire. Une fois qu'on a dit ça, moi, je pense que on est effectivement pendant le mille. Alors, ça peut paraître, dis pas ça pour toi, mais ça peut paraître, parfois le mot populaire fait un peu, si c'est la culture, ça peut pas être populaire, si c'est populaire, ça peut pas être de la culture. C'est pas du tout ce que tu dis, hein, je veux dire, mais c'est souvent ce qu'on entend. Et parfois, il y a une petite gêne à ce niveau-là. Bon, Star Wars, c'est de la culture populaire. Est-ce que Star Wars développe un imaginaire propre à une certaine culture ? Je pense que oui, mais c'est diffus. Voilà, c'est pas un message, évidemment. Et puis surtout, ça ne représente pas quelque chose d'aussi fort que le cinéma des années 50, par exemple. Mais dans les années 50, justement, c'était aussi du cinéma populaire. Dans les années 50, on avait des critiques qui disaient que Alfred Hitchcock, c'était un grand génie du suspense. Et il a fallu d'ailleurs des critiques français, hein, c'était Chabrol, la bande des Cahiers du cinéma, pour dire non, c'est pas un maître du suspense, c'est un maître tout court. Enfin, donc il y a quelque chose comme ça aussi qui, parfois, c'est la culture populaire qui développe du soft power. Moi, pourquoi est-ce que je pense que le soft power, là, c'est un petit peu compliqué ? D'une part, parce que comme le disait le vieux Karl, c'est quand même l'infrastructure qui conditionne la superstructure. C'est-à-dire que c'est pas le cinéma, pour moi, in fine, c'est pas le cinéma des années 50 qui a assis l'influence américaine en Europe, évidemment. Enfin, même dit comme ça, c'est un peu absurde. Et de la même façon, donc c'est quelque chose qui arrive après. C'est une superstructure. Et vouloir tirer le jeu vidéo par l'aspect soft power, ce serait vouloir se tirer soi-même par les moustaches pour avancer, quoi. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il y a quand même, à mon avis, il y a quand même quelque chose qui est culturel. Mais on a évidemment toujours du mal à discerner la nouveauté de cette culture parce qu'elle est en train de se faire. Et comme disait l'un des précurseurs du vieux Karl, c'est la, la, la chouette de Minerve ne s'envole qu'à la nuit tombée. C'est, on verra ça à la fin du siècle, globalement. Et là, on dira, bah oui, évidemment. Évidemment que c'était culturel. Mais voilà, on ne peut pas... Mais quand je vois aujourd'hui, moi, mon gamin qui a 6 ans jouer à Minecraft, je me dis, il y a quelque chose, là. Je ne sais pas exactement comment le faire et comment le dire, mais il y a quelque chose. Ce n'est pas juste des Legos. Et même si, pour le coup, dans Minecraft, il n'y a pas d'histoire, et qu'il y a effectivement un univers poétique, poético-intellectuel, il y a quelque chose que je n'arrive pas à nommer, et je pense que ça participe quand même d'une façon de voir le monde. Mais ce n'est pas encore là, simplement. Mais peut-être que... Enfin, voilà, ce n'est pas encore là.
Le mot de la fin, l'industrie du jeu vidéo, industrie du 21e siècle, vous avez posé la question. Est-ce qu'effectivement, il y a une réponse avec toute cette étude que vous avez réalisée ou pas? Ou est-ce
qu'on est
au milieu du guet?
Puisque tu l'évoquais, il y avait une référence à Godard qui disait que le cinéma, c'est l'industrie du 19e siècle, parce que les technologies, l'infrastructure étaient celles du 20e. Et que l'art n'est venu que la création cinématographique. Donc c'était un petit peu un jeu comme ça, en disant, on est d'accord, hein, le jeu vidéo s'impose en termes de, si on regarde en nombre d'heures, si on regarde en population touchée, si on regarde... Pendant longtemps, on disait, jeu vidéo, c'est des trucs de garçons, maintenant c'est fini, c'est moitié-moitié, mais c'est pas les mêmes jeux. On disait, c'est une question d'âge, donc c'est les gamins qui jouent, sauf que c'est un effet générationnel, là c'est démontré. Donc quand on a joué, on continuera à jouer, peut-être pas à 70 ans, mais on n'en sait rien. Pour le moment, on regarde que ceux qui ont joué à 15 ans, il y a 30 ans, et ils continuent à jouer. Donc c'est un effet générationnel. Et inversement, par exemple, la lecture de presse quotidienne nationale, c'est l'effet générationnel inverse. 70% des Français lisaient un quotidien national en 1945, ils sont plus que 5% aujourd'hui. Et donc ça s'est effondré, et c'est pas que les jeunes lisent plus, c'est que plus personne ne lit. À 15 ans, donc ils continueront pas à lire, et ils vont pas s'y mettre à 50 ans. Donc l'effet générationnel est extrêmement puissant, donc et quasi irréversible, en tout cas parce qu'il est fondé sur cette logique démographique. Donc du seul point de vue démographique et des usages, le jeu vidéo s'impose. Mm-hmm. C'est déjà imposé. On est quand même en 2019, donc 21e siècle, ça fait un quart de temps qu'on y est, ou un cinquième. C'est imposé, et c'est imposé comme univers mental, d'univers d'images. Et alors, la question culturelle, c'est un peu un truc métaphysique sur lequel on peut parler des heures. Et c'est un peu ce qu'on raconte dans le bouquin, c'est qu'il y a le côté artistique qui est créatif, qui est sur des choses assez simples, hein, l'image, le scénario, les formes de récit, qui sont quand même très différentes des formes classiques. Et puis il y a l'aspect anthropologique de la culture et maintenant social du jeu. Pendant longtemps, c'était le geek devant sa console ou son PC, ça le reste aussi, mais c'est de plus en plus des jeux sociaux, c'est de plus en plus l'e-sport, donc ça sort, c'est dans le spectacle, c'est dans les concerts, c'est sorti de la chambre, et donc c'est sorti aussi de la culture à domicile. Et c'est dans les transports, et c'est tout le temps. Donc ça devient, de ce point de vue-là, je crois vraiment une industrie du 21e siècle. Alors une industrie, oui, et culturellement un marqueur assez fondamental de la culture, avec ce double aspect, je réinsiste là-dessus, c'est que c'est anthropologique et artistique. Et donc de ce point de vue-là, c'est plus fort. Ce qui était anthropologique dans le cinéma, c'était le besoin de récit, ou dans le roman, c'est le besoin de récit, ce qu'on a peut-être moins dans le jeu vidéo. Mais on a la force du ludique, qui est extrêmement puissante et qui est plus ancienne et touche toutes les civilisations, tous les continents.
Merci à vous deux. Merci. Je crois qu'on a été assez large. Merci à vous.